Je suis en compagnie de Laurent Testeau. Nous parlons de son dernier ouvrage, Cataclysme, une histoire environnementale de l'humanité, paru en 2017 aux éditions Payot. Bonjour Laurent Testeau. Pouvons-nous commencer par l'ambition du projet, qui est celui d'écrire une histoire environnementale de l'humanité? Il s'inscrit dans un courant historique, une manière de faire de l'histoire, qui est l'histoire globale. Dans votre introduction, vous décrivez un paradoxe. Ceux qui font aujourd'hui de l'histoire globale en France sont géographes, économistes, philosophes, anthropologues, mais très rarement historiens.
Bonsoir Dominique Jeanvray. Vous allez me faire des ennemis avec votre question. Je n'entends pas attaquer les historiens en posant ce constat que l'histoire globale en France est aujourd'hui surtout pratiquée par des géographes, des économistes, des anthropologues, des archéologues, rarement des historiens, encore qu'il y en ait quelques-uns. Le constat est surtout que l'histoire en France se fait sur la base d'archives et que faire une histoire sur le temps long, sur de grandes distances, oblige à ne pas passer seulement par les archives, mais aussi beaucoup par des lectures de seconde main et d'en faire une compilation. Une autre méthode est celle utilisée par Patrick Boucheron, de coordonner des ouvrages collectifs en demandant à des spécialistes des périodes concernées ou des zones géographiques concernées, leur expertise. Et là, effectivement, vous pouvez faire un livre d'histoire avec que des historiens. Mais l'histoire globale est une entreprise transdisciplinaire associant plusieurs disciplines à la compréhension des passés communs de l'humanité. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire une histoire globale environnementale en remontant 3 millions d'années. Et comme je ne suis pas historien mais journaliste, ça a pris la forme un peu d'une enquête, d'un film sur ce passé de l'humanité.
Alors attachons-nous au mot, au concept environnemental. L'histoire environnementale, vous écrivez, est née aux États-Unis vers 1970.
C'est exact. Un des grands maîtres que j'ai trouvé sur ma route, un des principaux guides, ce n'est pas forcément les grands classiques, c'est Alfred Crosby, avec son formidable Échange colombien, The Columbian Exchange, qui n'a jamais été traduit à ma connaissance en français, mais qui articule des choses fondamentales sur le destin des civilisations et l'environnement, parce qu'en fait, on raconte souvent que les Espagnols ont débarqué dans le Nouveau Monde et ont terrassé les puissances étatiques qui s'y trouvaient, la Confédération aztèque, l'Empire inca, mais en fait, c'est une histoire, on peut dire presque absurde si on se contentait de l'histoire militaire, si on se contentait de dire, eh ben, 600 Espagnols ont débarqué, puis ils ont terrassé une puissance qui comprenait à peu près 17 millions de personnes, dont 1 million de gens qui avaient pour profession de faire la guerre. Voilà. Bon, les Espagnols, ils y ont vu un miracle, hein. Ils pensaient que Santiago était avec eux, que les gens d'en face tombaient sous les coups d'un ange invisible. En fait, la Confédération aztèque est tombée sous les coups de quelque chose d'invisible. Effectivement, ça s'appelait des microbes, différentes maladies que les Européens ont apportées avec eux et qui ont terrassé les Amérindiens qui n'avaient jamais été en contact avec ces épidémies-là, puisqu'elles étaient nées en fait dans l'Ancien Monde. Par la relation de domestication du bétail, on avait échangé des germes avec les porcs, avec le poulet, avec d'autres animaux. Ça avait circulé. D'autres maladies également s'étaient installées, qui étaient venues d'un contexte plus ancien en Afrique. Et bref, les Espagnols, quand ils ont débarqué, chacun des Espagnols était une véritable bombe bactériologique, détenant des germes de maladies que les Amérindiens ne connaissaient pas, qui avaient pour nom la peste, la grippe, la rougeole, la rubéole, la variole. Bon, c'est la variole qui a été la première à frapper. Elle a emporté la moitié. Des Aztèques. Et ensuite, eh ben, a suivi le cortège pour ceux qui avaient survécu de différentes maladies. À chaque fois, les organismes s'affaiblissaient un peu plus. Le résultat, c'est que un siècle après le débarquement des Espagnols, la population amérindienne est tombée à quelque chose comme 10% de ses effectifs. Il est très difficile de donner un chiffre précis, mais on a l'ordre de grandeur. Voilà. Peut-être 50 millions d'Amérindiens, 60 millions, et il en reste 5 ou 6 après l'arrivée des Blancs. Ça explique la facilité de la conquête. Ça explique aussi l'idée d'Alfred Crosby, c'était l'échange colombien, c'est-à-dire que l'Europe a apporté ses microbes dans le Nouveau Monde, mais le Nouveau Monde lui a donné également de quoi nourrir sa croissance démographique, de quoi nourrir la croissance démographique du monde avec le manioc, le maïs et bien d'autres plantes. Donc tout ça était fondamental dans la naissance de la modernité et c'est un épisode méconnu finalement que l'histoire environnementale tel que l'a fait Crosby, permet de ressusciter et de montrer que quelque part, le monde moderne, il est né de cette rencontre-là et il a pris un tournant décisif le jour où un Espagnol a éternué sur une plage d'Hispaniola. Voilà, c'est ce moment-là qui est intéressant à essayer de retracer.
Pour écrire cette histoire globale, environnementale, vous allez utiliser, Laurent Testeau, la métaphore de singe. Et ainsi, votre livre sera la saga de singe.
Oui, alors on comprend bien que singe, c'est référé au singe nu de Desmond Morris, cet animal étrange qui est nous finalement. Nous sommes des cousins du chimpanzé, du gorille. Je retrace cette histoire en me demandant à partir de quel moment cet animal-là a eu le pouvoir d'impacter son environnement. Et donc l'enquête commence en Afrique, il y a 3 millions d'années. La planète se refroidit, s'aridifie pour l'Afrique. Et un animal s'adapte avec succès à un nouveau contexte qui est la savane africaine, plus aride, etc. Donc c'est un frugivore il y a longtemps et il commence à traquer autre chose, des racines d'abord, il tente différentes expériences, il se redresse, il finit par avoir l'idée géniale de fabriquer des outils et ça va tout changer, il va devenir de plus en plus bipède, un coureur exceptionnel, en tout cas au début. Aujourd'hui on a du mal à courir, mais nos ancêtres couraient très longtemps. Et cette capacité va lui permettre d'impacter le monde. Et on décèle cet impact archéologiquement à un moment où les niches écologiques d'Afrique changent de nature et que l'explication la plus simple, c'est qu'un nouveau prédateur est arrivé. Voilà, alors ça, c'est une hypothèse qui est posée par Lars Werdelin, paléo-anthropologue, mais elle est compatible en fait avec ce que l'on sait du développement de singe. Donc singe devient la métaphore de l'humanité au sens aussi un peu mythologique que j'ai repris des mythologies d'Asie. Donc notamment dans la mythologie indienne, singe c'est Hanuman, le surhomme qui aide le dieu Rama à reconquérir son épouse. Et singe en Chine, c'est aussi une créature, c'est le trickster en fait, c'est celui qui court-circuite toutes les lois de la hiérarchie des créatures et qui finit par l'emporter grâce à sa capacité à tromper les autres et à utiliser divers outils magiques sur lesquels il met la main. Et finalement, il se fait rattraper à un moment par Bouddha et puis il devient l'agent du bien. Donc c'est un roman, hein, Le Voyage vers l'Ouest, mais c'est une figure aussi mythologique, enfin on peut dire mythologique au sens large du terme, très présente dans l'imaginaire chinois. Et j'aime bien cette histoire du trickster, du tricheur, parce que ce sont des dieux qui toujours trichent. On dit aussi que Prométhée ou Loki sont des tricksters, ce sont les dieux qui amènent le feu, l'industrie chez les hommes et qui finalement font des hommes les égaux des dieux au bout d'un moment. Et là, quand ça commence à dérailler, que l'humain prenne le pas sur les dieux ou sur la nature, c'est finalement notre histoire, c'est-à-dire que on se sent un peu coupable de l'avoir fait, et en même temps on se sent formidablement bien, parce qu'avoir domestiqué le feu, c'est quand même bien que de n'avoir rien, donc bien mieux que de n'avoir rien. Donc on peut se réchauffer au coin du feu, on peut cuire sa viande, on peut manger mieux, c'est déjà un pas vers le confort moderne, la domestication du feu. Donc c'est une étape très importante, et c'est pour ça que cette idée de trickster, d'animal qui triche avec les lois naturelles, est fondamentale parce que c'est ce que nous avons fait, mais nous sommes allés beaucoup plus loin que singe. Nous avons domestiqué l'atome, nous avons imaginé de domestiquer les gènes, nous avons décortiqué l'ADN et nous commençons à le reprogrammer. Nous nous lançons dans des expériences inédites et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai fait ce livre, c'est pour avoir le recul historique sur ce que ça veut dire, qu'est-ce qui lie les premiers humains qui ont domestiqué le feu il y a des centaines de milliers d'années à nous aujourd'hui qui finalement pouvons nous enregistrer en utilisant l'énergie d'une centrale atomique à proximité. Voilà.
Pour nous raconter cette longue histoire, Laurent Testeau, il y a des étapes. Il y en a sept. C'est sept révolutions qui se sont succédées C'est ce que vous allez égrener pendant tout votre ouvrage. Il y a la révolution biologique, il y a la révolution cognitive, il y a la révolution agricole, il y a la révolution morale, puis la révolution énergétique, de nos jours la révolution numérique, et celle que nous vivons déjà actuellement, la révolution évolutive. Et vous avez cette phrase, « Singe a imprimé au temps une formidable accélération ». Parlez-nous, non pas dans le détail de cette révolution, nous allons prendre tout le temps de l'interview pour en parler, mais de cette formidable accélération qu'a imprimé Singe au temps.
Comme je l'explique effectivement dans le passage que je consacre à ces révolutions, c'est que la première révolution a pris quelques millions d'années. Il a fallu quelques millions d'années avant que l'animal qui est singe devienne bipède, utilisateur d'outils. On voit bien qu'il y a eu des essais en Afrique parmi les hominidés qui nous ont précédés. Ensuite, il a fallu quelques centaines de milliers d'années pour la révolution suivante, qui a été une révolution cognitive, notre capacité à surdoper la coopération de l'espèce par le langage, par le langage syntaxique, par les différents artifices. Et la révolution agricole a pris, elle, quelques milliers d'années pour se préparer, peut-être quelques dizaines de milliers d'années au mieux. La révolution ensuite morale, celle des grandes religions, des empires universels, de la monnaie, cette fabrication de liens de plus en plus puissants, permettant à des collectifs d'humains de plus en plus nombreux d'imprimer toujours davantage leur marque sur la planète, elle, il a fallu quelques milliers d'années de latence. Et les autres révolutions se sont enchaînées très vite. Et aujourd'hui, les révolutions suivantes, elles sont devant nous. Et au lieu de prendre des millénaires ou des siècles comme la révolution antérieure, elles vont prendre quelques décennies ou pire quelques années, voire elles sont déjà actives. Et c'est cette accélération-là qui nous empêche aussi de penser aujourd'hui vraiment ce qui va nous arriver. Nous essayons de poser des barrières, par exemple, à la génétique en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. On va être complètement dépassé moralement par les progrès que la génétique ou l'intelligence artificielle vont accomplir dans les années à venir. C'est aussi ça dont il faut prendre conscience, c'est que notre capacité à impacter le monde ne fait que croître et que nous avons un retard, non pas sur notre capacité à impacter le monde, mais sur notre capacité à penser cette capacité à impacter le monde.
Des éléments que vous apportez dans votre ouvrage, c'est cette question de l'exception humaine. Se pose la question de l'exception humaine, notamment à l'époque très très lointaine où cohabitaient plusieurs espèces homo. Vous écrivez que si l'exception humaine ne saurait se limiter à un unique trait, puisque beaucoup de savants cherchent quelle est donc cette exception humaine, néanmoins, vous dites, ce qui nous rend unique dans le règne du vivant est une dynamique, le propre de l'humain, et d'engendrer continuellement le changement. Et ça serait sans doute ça, l'exception humaine.
Alors évidemment, je ne suis pas le premier à m'exercer à cet exercice de la recherche du propre de l'homme. J'en fais une petite synthèse aussi préalablement à cette conclusion. Mais le constat, c'est que nous ne sommes pas les seuls à utiliser des outils, nous ne sommes pas les seuls à nous projeter dans le futur, nous ne sommes pas les seuls à avoir un langage syntaxique ébauché. Donc voilà la question. Ce qui différencie l'humain avant tout, c'est sa capacité, les dimensions dans lesquelles il met en œuvre toutes ces capacités-là, il les lie pour en faire une dynamique. Et je compare cela pour que l'on comprenne mieux à une pile, c'est-à-dire que vous prenez une pile, c'est un objet relativement simple qui comprend un pôle positif, un pôle négatif et un médium entre les deux pour faire circuler l'énergie qui circule entre ces deux pôles. Et plus ces pôles sont opposés, plus ils sont chargés en énergie. Voilà. Et nous, dans le règne du vivant, nous sommes une anomalie, nous sommes une pile surpuissante. Nous avons deux pôles, un pôle positif qui est notre capacité d'empathie qui est dopée par le langage. On se reconnaît entre nous comme étant humain et on est capable des sacrifices les plus altruistes pour l'autre, pour le sauver. C'est ce qui a permis à l'espèce de survivre à un moment, puisque c'est, quand on voit des grands yeux, quelque chose que l'on assimile comme humain mais qui est impuissant, c'est-à-dire un bébé, on a envie de l'aider, de le câliner et de le protéger. Voilà, ça nous a permis, en mutualisant l'élevage de nos petits, de leur apprendre beaucoup de choses, de leur faire passer de longues périodes de vulnérabilité. Bref, cette partie altruiste nous a aussi permis de conquérir le monde par la coopération. Et puis, on a une autre partie qui est celle du super prédateur, c'est-à-dire une capacité à la violence qui est absolument inimaginable peut-être pour la plupart des autres animaux. Donc, cette violence est le pôle négatif de la pile. Et entre cet altruisme toujours plus fort et cette violence qui est également toujours plus forte, circule toujours plus d'énergie. Et voilà, c'est une sorte de juggernaut à travers l'histoire naturelle qu'aura été finalement l'espèce humaine, ou qu'est l'espèce humaine encore aujourd'hui. C'est nous avons changé fondamentalement toutes les règles du vivant, toutes les règles de la nature, si tant est qu'on puisse encore parler de nature. Et nous sommes allés jusqu'à imprimer notre marque sur la planète. Aujourd'hui, même dans 10 millions d'années, s'il y a une espèce intelligente qui nous succède et qui fait de l'archéologie, elle saura précisément à quel moment nous sommes passés, puisqu'elle trouvera encore des traces sous forme de plastique, de nucléides ou d'autres matériaux difficilement dégradables. Nous avons marqué définitivement notre temps, au point même de mettre en péril la survie de notre espèce. Et ça, c'est imminent, c'est pour le siècle à venir.
Restons encore pour le moment, Laurent Testo, dans le très lointain chronologique, c'est-à-dire avant, et sur les représentations que l'on se fait actuellement de ce très lointain passé, celui de nos origines, au moment de la révolution cognitive, vers moins 100 000 ans, pour faire vite. Il faudrait utiliser, dites-vous, l'image du buisson. Je vous lis. « Le buisson de l'humanité est un arbre dont toutes les branches sont mortes, sauf la nôtre. » Ce qui nous a fait croire que notre arbre généalogique se réduisait à un tronc, que nous étions uniques. Or, des espèces homo cohabitées, il suffit de prendre l'exemple de Néandertal et d'Homo sapiens.
Oui, c'est exact. Alors la révolution cognitive, je suis persuadé qu'elle a au moins 150 000, entre moins 500 000 et 150 000, mais bon, c'est de l'ordre du détail, pour des raisons que je source dans ce livre. Il y a 100 000 ans, il existait au moins 5 ou 6 autres espèces homo. Ensuite de la nôtre, il y avait des Néandertal, Denisova et quelques autres probables dont on commence à détecter la présence par la génétique. Nous les avons absorbés parce que Sapiens avait une plus grande capacité probablement à coopérer. Donc nous ne les avons pas totalement exterminés dans la mesure où si nous savons qu'elles existent, c'est parce qu'il se trouve encore des gènes qui les dénonce, qui dénonce cette présence. Voilà, mais effectivement, nous sommes probablement, si ce n'est les assassins, au moins les fossoyeurs de Néandertal, de Denisova, puisque nous avons conquis un monde où ils étaient déjà présents. Et l'idée du buisson, c'est vraiment que notre évolution a été très bigarrée, très brouillonne. Nous ne sommes pas issus d'un seul tronc, effectivement. Il y a eu d'autres embranchements et nous nous sommes recroisés avec ces embranchements-là. C'est aussi cette vérité qui est peut-être un peu dérangeante pour nous. Est-ce que nous avons vraiment détruit ces homos qui ont coexisté avec nous, ou est-ce que nous sommes une synthèse de différents homos? Bon, c'est une question philosophique qui serait peut-être intéressant de creuser à une autre occasion.
Et puis, le temps va s'accélérer. Il va y avoir la révolution agricole, il y a environ 12 000 ans. Et là, il s'est passé quelque chose. Vous écrivez, c'est ici que singe est devenu paysan, sorcier du vivant, biotechnicien. C'est en ce lieu qu'il a pour la première fois modelé la nature dans sa génétique même. La nouveauté il y a 13 000 ans a porté sur la nature même du blé. Que s'est-il passé ?
Oui, j'appelle cet événement le pacte du blé. J'aurais pu parler du pacte du riz qui lui était quasi contemporain en Chine. Il s'est trouvé qu'on mangeait depuis longtemps des céréales. On sait qu'on trouve des meules qui sont assez vieilles, 100 000 ans peut-être en Afrique. Donc on savait faire du pain depuis longtemps, mais on prélevait ces céréales dans les milieux sauvages. Et puis à un moment, il y a une mutation qui a été favorisée il y a entre 11 et 13 000 ans. Des populations avaient grossi, des populations de chasseurs-cueilleurs avaient grossi, et elles ont commencé probablement à souffrir de stress alimentaire et donc à sélectionner des plantes pour les replanter en observant que quand on semait des graines, ça, à un endroit, ça repoussait mieux. Bref, elles ont commencé en tâtonnant l'agriculture et surtout à ce moment-là, elles ont impacté la génétique même en favorisant un gène qui, le blé à l'état sauvage, normalement, le grain se détache une fois mûr de l'épi et se disperse pour en assurer la reproduction. Et là, il s'est retrouvé un gène récessif qui, normalement, n'arrive que sur un épi sur un million et ne se transmet pas à la descendance, c'est un gène qui, où les grains restent sur l'épi. Mais c'est beaucoup plus pratique pour singe qui peut ainsi ramasser l'épi et le ramener à la maison pour le battre et en extraire ainsi les grains. Et à un moment, on a fait basculer cette génétique, on a transformé les céréales de façon à ce que cette mutation-là soit favorisée. Probablement par sélection naturelle, ce n'était pas voulu, hein, je ne dis pas qu'ils sont arrivés avec des cornues et qu'ils ont modifié la génétique de façon délibérée, mais en tout cas, sur une durée qui a pris plusieurs milliers d'années, notre consommation de ces céréales a permis de les domestiquer, d'en changer le génome et de leur donner un certain nombre de caractéristiques qui en favorisaient la consommation. Les deux caractéristiques principales pour ce qui nous concerne, c'est que les grains ne se détachaient plus de l'épi, donc le blé confiait sa reproduction à nos bons soins. C'est une anomalie en termes sauvages, mais le blé y a gagné quelque part, peut-on observer malicieusement, puisqu'il s'est beaucoup diffusé. Plus que s'il était resté à l'état sauvage. Et la seconde modification qui nous concerne, c'est qu'on a augmenté le taux de certaines substances dans ces grains de blé, notamment le gluten et l'amidon. On a favorisé des plantes riches dans ces matériaux nécessaires à la panification. Et puis, quand on en a eu les moyens, beaucoup plus tard, d'altérer directement la génétique, on a pu régler la hauteur du blé pour les moissonneuses batteuses. On a pu aussi régler la teneur en gluten, l'augmenter au maximum pour faire plus facilement de la pâtisserie. C'est parfois nos estomacs qui ne suivent pas.
Et puis, c'est là où on va pouvoir commencer à détecter l'impact environnemental de singes. Il va y avoir la révolution morale il y a 2500 ans. La révolution morale, c'est essentiellement la religion, les échanges, et qui va avoir un impact aussi sur la manière dont singe va s'emparer de la terre et qui va, très largement, mais va permettre à singe d'avoir les idées qu'il faut pour pouvoir s'emparer du vivant, s'emparer de la planète.
J'entends révolution morale, ce que en philosophie on a appelé la révolution axiale, c'est-à-dire la remarque que les grandes religions contemporaines sont toutes nées à peu près au même moment. Bouddha, Confucius et les prophètes juifs et les philosophes grecs étaient des contemporains, sensiblement. Cela vient du fait que la densité humaine sur la planète avait augmenté et de grandes civilisations s'étaient formées, étaient entrées en contact et donc elles avaient besoin de médiation. Donc d'où l'idée de principe universel. Le premier principe universel est posé par la morale, c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Donc c'est une base qui appelle à coopérer à toute l'humanité. Le bouddhisme ou le judaïsme, en tout cas à ses débuts, sont des religions universelles. Elles ont vocation à englober tout le genre humain. Et simultanément, elles sont accompagnées de l'essor d'empires universaux, ce qui ne s'était pas encore vu, enfin ce qui était déjà en germe, mais qui ne s'était pas encore vu, et également de la monnaie, qui est la monnaie fiduciaire, qui est inventée à peu près à ce moment-là sous la forme que nous lui connaissons, la monnaie métallique, qui repose en fait sur un accroissement du pouvoir de ces États. Et les États vont se consacrer aux échanges, médiatisés à travers la monnaie, et ce qui oblige mécaniquement à un accroissement de l'activité pour que ces structures se développent. Et donc les échanges sont à la fois religieux, militaires et monétaire. Ce sont donc les marchands, les militaires, les missionnaires qui ont construit notre monde et en étant en interaction. Alors là, il s'agit vraiment de l'Ancien Monde, de la zone formée par l'Asie, l'Europe et une partie de l'Afrique, qui est ainsi mise en contact et où les échanges sont de plus en plus approfondis. Bien sûr, il y avait aussi une quatrième couche d'échanges qui étaient les échanges biologiques, qui eux n'apparaissaient pas forcément, mais on voyait déjà se diffuser des plantes alimentaires de façon massive, qui accompagnaient également un essor démographique. Alors il faut bien comprendre aussi que certaines de ces révolutions permettent des essors démographiques sans précédent qui sont aussi impactants au niveau de l'environnement. Le fait d'avoir domestiqué le vivant a permis de passer ce que j'appelle un cliquet malthusien, c'est-à-dire qu'en gros, la Terre pouvait accueillir 5 millions de chasseurs-cueilleurs au maximum, et c'était ce maximum-là que nous avions atteint. La révolution agricole a permis de propulser ce nombre en moins de 10 000 ans à plus de 100 millions. Et ensuite, ça n'a fait que s'accélérer, mais on est tombé sur un autre cliquet malthusien, et on en parlera sûrement plus tard, dans les années 1800.
Néanmoins, on est capable, à notre époque, de constater, par les sciences, l'impact environnemental de singes. Je vous cite: la déforestation résultant de l'extension des cultures, des pâturages, des moutons et des chèvres, de l'utilisation du charbon de bois pour alimenter les ateliers de métallurgie et de céramique, laisse des traces archéologiques de plus en plus flagrantes. Et alors, pour donner un exemple, vous prenez celui de que c'est visible à l'époque d'Alexandre, d'Alexandre le Grand, les Grecs partent en masse vers l'Asie dans le sillage des conquêtes parce qu'ils ne peuvent plus produire suffisamment sur des collines où la pierre est désormais à nu.
Oui, c'est un constat qui est un des constats fondamentaux de l'histoire environnementale, puisqu'il a été posé dès 1967 par un célèbre géographe américain du nom de Glacken. L'impact en fait sur les forêts, il est probablement bien antérieur. On le sait dans le cas de l'Australie, où l'arrivée des humains il y a 50 000 ans a été désastreuse pour les forêts. Je raconte également cet épisode, mais il s'amplifie effectivement avec l'agriculture, où on a aridifié une partie de l'Asie à partir d'il y a quelques milliers d'années, et cet impact n'a fait que s'accroître. En fait, les forêts reculent avec la civilisation, et parfois, quand une civilisation s'effondre, les forêts reprennent leurs droits. Mais dans le passé, nous avons détruit énormément de forêts, sauf que cet effort, enfin cette destruction, continue à s'accroître encore aujourd'hui, et nous peinons finalement. Quand on fait une histoire environnementale des millénaires passés, à se représenter la perte effroyable de biodiversité qui a accompagné l'essor de nos civilisations. Parce qu'on sait aujourd'hui que quand vous coupez une forêt, c'est tout un biotope qui s'effondre, c'est des animaux qui disparaissent. Les archéologues savent très bien que il y a un nombre d'espèces de grands animaux, par exemple, qui ont complètement disparu de nos écosystèmes. Si on pouvait revenir 20 000 ans en arrière ou 100 000 ans en arrière, on verrait en France des rhinocéros, des mammouths, d'autres espèces d'éléphantidés, des ours de très grande taille, des lions. Tout ça s'est estompé. Les derniers aurochs de France sont morts vers l'an 1000, par exemple. Et on voit ainsi, on avait des élans, des animaux qu'on associe aujourd'hui plus qu'au Grand Nord, notamment canadien. Donc, toute cette diversité-là n'a fait que reculer depuis le début. Et les forêts sont aussi un indicateur, puisqu'on peut le voir par la palynologie aujourd'hui, sont un indicateur de ces développements-là. Cela amène à repenser finalement. Ce que l'on a aujourd'hui comme forêt restante, ce n'est pas un patrimoine, ce n'est pas seulement un patrimoine commun de l'humanité. Ce sont des survivants, de véritables, quelque part, fossiles vivants. Il n'existe quasiment plus sur la planète de forêt à proprement parler primaire. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment que des forêts déjà impactées par l'homme, dont la biodiversité a déjà reculé dans le passé. Et c'est ça aussi dont il faut prendre conscience, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui un patrimoine tant dont nous pouvons nous permettre d'amputer une partie. Dans l'idéal, il faudrait sauvegarder toutes les forêts du monde et trouver un moyen de patrimonialiser définitivement cela. Or, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer, puisqu'un certain nombre de pays pensent que les forêts sont encore des ressources importantes. Je pense à l'Indonésie, je pense au Brésil. Et donc, on va abattre ces forêts pour faire aujourd'hui des cultures diverses, notamment de l'huile de palme ou du soja, pour répondre à des demandes de développement local et de consommation, notamment de pays plus riches. Mais il faudrait repenser d'urgence cela en voyant ces forêts vraiment comme des survivantes d'une prédation qui dure depuis extrêmement longtemps. Voilà. Je parle assez souvent des forêts dans ce livre. J'y reviens aussi à un moment crucial de l'histoire de l'Inde où une communauté a tenté de sauver une forêt au prix du sang. Mais c'est un message aussi extrêmement important. Il ne faut pas penser que c'est un acquis que nous sommes en train de dépenser doucement. C'est un acquis dont nous avons déjà dépensé l'essentiel de l'usufruit, les forêts.
Oui, si on reste sur l'exemple de la forêt, vous évoquez cet épisode lorsque les Anglais ont conquis l'Inde. Et d'ailleurs, vous expliquez très bien comment c'est possible que un pays de 5 millions d'habitants conquiert un pays qui comptait 150 millions d'habitants et qui était juste un siècle auparavant un des pays les plus puissants de la planète. Donc là, ça vous l'expliquez très bien. Mais vous expliquez que oui, l'Inde, il y avait beaucoup de forêts et que les Anglais en arrivant l'ont déforesté. Vous expliquez aussi la manière dont l'Amazonie avait une population qui occupait ce territoire et comment en fait c'est absolument pas une forêt on va dire primitive, sauvage, mais que ça a été aussi quelque part, enfin c'est toujours, vous n'êtes pas aussi explicite que ça, là je vais peut-être un peu trop loin parce que vous dites pas, enfin il y a eu un processus où l'homme a vraiment très longtemps agi et que c'est une forêt qui a été aussi quelque part construite. Donc là, pour finir avec cet exemple de forêt, vous voulez peut-être préciser un tout petit peu peut-être.
Oui, très rapidement. Il restait des forêts en Inde à l'arrivée des Anglais parce que l'éléphant était un symbole royal très important et donc les Indiens avaient fait des sortes de réserves naturelles pour que les rois aient de quoi se fournir en éléphants parce qu'il fallait une interaction entre des éléphants semi-sauvages et des éléphants domestiqués pour se procurer des stocks importants de ces pachydermes. Ce qui explique que l'Inde ait sauvegardé à la fois ses forêts et ses éléphants. Les Anglais ont surtout ravagé, ou comme les autres puissances coloniales d'ailleurs, certains pays d'Asie comme la Birmanie et puis ensuite la prédation s'est déportée vers les îles du Pacifique. Pour l'Amazonie, l'idée c'est simplement que les Amérindiens ont vécu dans l'Amazonie comme dans un jardin en orientant la croissance des plantes, en empêchant de pousser les plantes qui ne leur plaisaient pas, ce qui explique qu'aujourd'hui encore en Amazonie on trouve beaucoup plus de plantes à fruits que la sélection naturelle autoriserait. C'est simplement que ça a été un jardin sauvage. Ils orientaient la croissance des plantes, ils se baladaient, ils cassaient tel arbrisseau qui commençait à pousser et ne leur plaisait pas pour favoriser la croissance d'un autre, voilà. C'était une sorte d'horticulture, mais il y avait 5 à 10 millions de personnes qui habitaient l'Amazonie au moment de l'arrivée des Blancs. Les premières expéditions espagnoles à traverser l'Amazonie voient d'ailleurs des cités, des avenues à travers la forêt, etc. Et puis 30 ans plus tard, c'est plus le cas, il n'y a plus personne, les maladies sont passées, ces civilisations-là se sont effondrées, les indigènes évitent tout contact et les broussailles envahissent la forêt. Et donc aujourd'hui, l'Amazonie, c'est une histoire qui résulte de ça, c'est-à-dire que c'est une forêt vierge, certes, mais depuis quelques siècles seulement. Avant, c'était pour partie un grand jardin. Peut-être pas la totalité de l'Amazonie, mais il y avait vraiment des miracles. On ne peut pas appeler ça d'urbanisme, mais en tout cas d'agroforesterie, oui, d'entretien du milieu.
Nous allons justement y venir à cet épisode de la conquête de l'Amérique par l'Europe. Il y a un élément très très important dont on a un petit peu esquissé, c'est les microbes. Voilà, dans votre histoire environnementale, il y a bien entendu ce que l'homme, comment il évolue dans son environnement, mais il y a aussi ce que les microbes, qui est aussi l'environnement terrien, lui fait. Et là, il y a de terribles épidémies. Enfin, la surprise en lisant votre livre, c'est de voir à quel point il y a les maladies et les épidémies sont une réalité. On peut penser par exemple à la peste, à la peste noire, mais aussi à des famines. Et cette cohabitation de singes avec les microbes, nous l'avons bien entendu avec la conquête européenne en Amérique. Et cette conquête Ces effets, c'est donc que la population amérindienne, c'est ce que vous avez dit en introduction, s'effondre à 10% de ses effectifs en un siècle. Et c'est en fait le huitième de la population mondiale qui disparaît. Et alors, on peut en lire les effets. C'est assez effrayant de voir qu'on peut en lire les effets. Et je vais vous lire longuement. C'est le seul moment, depuis la révolution agricole amorcée il y a 10 000 ans, où la lente mais inexorable montée de la densité des gaz carboniques dans l'atmosphère, reconstituée à partir des carottages de glace effectués au pôle, accuse une chute marquée. Celle-ci ne dure guère, mais elle est symptomatique. Des dizaines de millions d'Amérindiens agonisent, cessent de brûler des végétaux. Leur disparition ne sera lisible que bien plus tard, inscrite dans la longue durée scandée par les courbes millénaires de hausse du carbone.
Oui, c'est un fait. Et certains géographes américains sont même allés jusqu'à poser l'hypothèse, je pense à Mark Maslin notamment, que cela avait relancé le petit âge glaciaire. En tout cas, cela y a probablement contribué parce qu'une bonne partie de ces Amérindiens décimés avaient se livré à l'écobuage, c'est-à-dire au brûlis ponctuel de portions de forêt pour initier leur culture. Et donc, le fait que ces millions d'agriculteurs soit mort, disparu, a contribué au petit âge glaciaire et à faire du XVIIe siècle le moment le plus froid de l'histoire humaine récente depuis 10 000 ans. En conjonction avec deux autres phénomènes, a priori, des éruptions volcaniques qui ont refroidi le climat et un phénomène épisode de Maunder, du nom des astronomes qui ont défini ce phénomène, c'est-à-dire un ralentissement en gros de l'activité du Soleil qui a envoyé moins d'énergie. Donc ces trois phénomènes combinés, la mort des Amérindiens qui ont envoyé moins de gaz carbonique dans l'atmosphère, une série d'éruptions volcaniques et ce phénomène de Maunder, cet épisode de Maunder, fait du XVIIe siècle un moment extrêmement froid. Et je m'attache à ce moment-là, qui est notamment décrit par Geoffrey Parker dans son livre Global Crisis, parce que Geoffrey Parker montre clairement les effets d'une petite modification au demeurant du climat, c'est-à-dire un degré plus froid sur l'ensemble de la planète. Mais ça veut dire à certains endroits moins 7 degrés, ça veut dire plus de récolte pendant une décennie consécutive, ça veut dire que des empires s'effondrent, que des gens meurent de faim et déterrent les cadavres pour se nourrir, se mettent en branle pour aller taper le voisin des fois qu'il y a encore un petit stock de blé chez lui, que les épidémies prospèrent. Pour un degré de moins au XVIIe siècle, apparemment un tiers de la population mondiale a été emporté. Et donc ça résonne un peu comme un avertissement sinistre pour le siècle à venir où nous savons que nous aurons une hausse des températures d'au minimum 3-4 degrés centigrades. Là-dessus, il y a un consensus scientifique assez écrasant si on ne fait rien. Mais c'est hélas le scénario le plus probable aujourd'hui, mais on y reviendra peut-être à la fin.
Oui, cet épisode dans votre livre, Laurent Testot, est effectivement assez terrible. C'était justement ma prochaine question. Et oui, je souhaitais lire ce passage où vous expliquez les thèses de Geoffrey Parker, que oui, un tiers de l'humanité aurait péri sur un temps très très court, hein, 1645-1715, c'est le règne de Louis XIV. Donc c'est assez effrayant de se dire, oui, comment... Des changements climatiques ont pu modifier à ce point-là donc l'humanité. J'aimerais, du coup, on avance dans le temps, quoi. On va arriver à notre 20e siècle. Et alors, vous évoquez un chercheur, John McNeill, et je vais vous citer longuement pour expliquer sa recherche et ce qu'il a découvert et qui peut être assez sidérant. Donc nous sommes au XXe siècle, marque la plus visible de ce nouveau pouvoir une croissance démographique phénoménale qui a brisé le cliquet malthusien. La population humaine est passée de 1,6 milliard en 1900 à 6 milliards en 2000. Mais là n'est pas le plus important. Ce que souligne l'historien de l'environnement John McNeill en introduction de son livre « Du nouveau sous le soleil », dans la préface de l'édition française, l'auteur rapporte qu'il a consacré la décennie 1990 à rédiger une histoire environnementale du XXe siècle alors que celui-ci prenait fin. Au début de son enquête, il s'est demandé quel événement était le plus marquant. Voilà. Quel événement était le plus marquant dans cette histoire environnementale du XXe siècle? Et la conclusion que McNeill pouvait tirer de la littérature scientifique disponible dans les années 1990 était que la croissance démographique sans précédent vécue par notre espèce constituait l'événement environnemental le plus important du siècle qui s'achevait. Mais en fait, le chercheur a pris conscience, au fur et à mesure de son enquête, c'est que le XXe siècle a précisément métamorphosé ce rapport à la nature. Et que c'était pas ce cliquet malthusien qui a sauté, mais que c'était ce rapport à la nature et un changement de paradigme gigantesque qui s'est passé au XXe siècle.
C'est pas ça. J'ai mal lu.
Si. C'est que je ne comprends pas le raisonnement. Oui, c'était l'anthropocène, c'est ça, c'est le concept d'anthropocène. D'accord. J'ai peut-être présenté à tort McNeill comme étant moteur dans cette prise de conscience, mais j'avais beaucoup aimé son ouvrage « Du nouveau sous le soleil », qui est une citation biblique de l'Ecclésiaste, « Rien de nouveau sous le soleil ». Oui, McNeill, en fait, a dressé une enquête sur les dimensions atteintes par l'anthropocène sphère par sphère en montrant comment elles étaient affectées au XXe siècle. Je développe dans ce livre également le concept de guerre au vivant, de guerre littéralement que nous avons menée à la nature pour la soumettre afin d'accompagner cette croissance démographique. Parce que effectivement, nous avions atteint un cliquet malthusien. Dès le début du XXe siècle, de bons esprits s'alarmaient en disant « si on ne trouve pas un moyen, on ne pourra jamais nourrir toutes ces bouches ». On prévoyait une guerre mondiale pour les nourritures dans les années 1920-1930. Ça résonne d'ailleurs étrangement en lien avec une certaine actualité. Et quelqu'un avait lancé, presque sous forme de boutade, sauf si on trouve le moyen de sortir l'azote de l'air, parce que l'azote que l'on amenait à ce moment-là par tombereau entier d'Amérique du Sud sous forme de guano, on est en train d'achever les derniers stocks. Et cet azote était indispensable comme engrais. Et en fait, quelqu'un a réussi la synthèse de l'azote à partir de l'air et ça a lancé l'agriculture industrielle. Mais ce sont des technologies de combat. À la base, c'est dans l'Allemagne des années 1910-1920 que l'on a réalisé ces prodiges-là et où on a réalisé également, à partir des gaz de combat, la synthèse des gaz qui allait servir de pesticides et accompagner donc cet usage de l'azote. Et c'est ce qu'on a appelé la Révolution verte, qui est une véritable guerre au vivant avec des technologies forgées dans la guerre qui a permis cette extension de population, de nourrir ce surcroît de bouche, puisqu'on est passé en l'espace d'un siècle, effectivement, d'1,6 milliard de personnes à 7 milliards. Donc c'est un essor démographique énorme. Et ce qui s'est rajouté en su, c'est l'émergence de gens qui vivent un confort sans égal dans l'histoire. Donc là, je vais peut-être également devancer une de vos questions. C'est l'émergence d'une certaine classe moyenne occidentale à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Ces technologies de combat, y compris rejointes par le nucléaire d'ailleurs pour fournir de l'énergie, ont servi à nous assurer un confort dans lequel nous avons vécu, mais sans y penser plus que ça. Mais chacun de nous, du moment qu'il participe au système, qu'il a un métier, qu'il gagne de l'argent, vit dans un confort qui est supérieur à celui que connaissait Louis XIV, dont on parlait tout à l'heure, qui était en proie au paludisme dans son beau palais de Versailles ouvert au courant d'air. Nous vivons mieux que Louis XIV, chacun de nous, individuellement. Mais il y a un prix à payer pour ça. D'abord, ce n'était pas donné à tout le monde. Et ensuite, ça a un impact environnemental très important. Au début, ce n'était pas donné à tout le monde, c'est-à-dire aux populations des pays occidentaux, essentiellement Europe occidentale et Amérique du Nord et Japon. Aujourd'hui, de plus en plus de gens sortent de la pauvreté. Le grand fait massif de l'économie, en fait, de ces 20 dernières années, c'est que 200 ou 300 millions de Chinois, autant d'Indiens et autant de Sud-Américains et un peu moins d'Africains, mais quand même, sont sortis de la pauvreté. Nous étions 1,5 milliard de classe moyenne. à la fin des années 90. Nous sommes aujourd'hui 2 milliards et pour 2030, l'OCDE en prévoit 4 milliards. Mais ce n'est donc pas le nombre d'humains sur Terre qui menace finalement notre avenir, c'est le nombre d'humains multiplié par leur consommation. Là où je voulais en venir, c'est que 2 ou 4 milliards de classes moyennes consommant énormément impacte de plus en plus l'environnement. Et j'ai coutume de dire par rapport à ça que la planète peut supporter 12 milliards d'humains s'ils vivent, comme le préconise Pierre Rabhi, de légumes cultivés dans leur jardin tranquillement en limitant les impacts environnementaux. Mais elle ne supportera pas 12 milliards de Donald Trump qui veulent un palais en haut d'un building, un jet privé et 12 voitures. Voilà. Et l'idée est aussi que si on veut rendre nos idéaux d'humains viables, on peut peut-être sauver la planète. C'est-à-dire si on fait triompher l'altruisme, notre part d'altruisme en nous, si on aide par exemple l'Afrique qui a subi énormément de prédations diverses au cours de son histoire à se préparer au choc climatique qui l'attend, dont elle va être la première victime. Parmi les zones continentales, parce que c'est elle qui va subir le plus dur du réchauffement, au moins à ses débuts. Si on devrait aujourd'hui consacrer des budgets à aider l'Afrique, à prendre en charge éventuellement les migrants, parce que les migrations vers le nord vont devenir inévitables, voilà, c'est un choix possible. C'est celui de l'assistance, d'essayer de se serrer les coudes en tant qu'être humain, en élargissant notre aide, notre vision de l'altruisme, et également aux animaux, mais ça on peut y revenir plus tard. L'autre solution, c'est de continuer dans la fuite en avant, c'est-à-dire de décider de préserver notre confort, de mettre des barrières, d'empêcher les migrants de passer, de les tracasser administrativement. C'est la voie qu'on a choisie. Au XVIIe siècle, les États, lorsqu'ils étaient confrontés à un refroidissement, auraient pu choisir de coopérer, mais ils n'avaient pas tous les moyens, toutes les connaissances qu'on avait. Et en plus, ils étaient plus vulnérables dans un premier temps au refroidissement parce que c'était des sociétés agraires reposant sur l'agriculture. Nous avons appris aujourd'hui à nous détacher de ça, c'est-à-dire que quand il y a le potentiel d'une famine en Russie, la Russie peut toujours acheter des stocks de céréales ailleurs, là où ils sont produits. Sauf que on ne peut faire jouer cette solidarité que entre États qui ont un certain niveau de vie, qui ont voilà. Et il faudrait peut-être réfléchir aux moyens de rendre ce monde plus résilient, alors qu'il y a une menace immédiate et que l'on sait que cette menace va éroder progressivement tous les concepts moraux que l'on a fait nôtre, et notamment, on le voit déjà, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, on érode nos libertés. Sous prétexte de défendre notre marché national du travail, on va mettre des barrières à l'entrée des migrants qui sont en train de fuir des réalités qui sont complètement atroces en Afrique ou au Moyen-Orient. Et c'est donc ces choix-là qu'il s'agit de faire maintenant. L'option va-t-on résister au réchauffement? Oui, non, on est en train de décider maintenant de la façon dont on va bâtir une société. Est-ce que ce sera une société cernée de murs où la technologie essaiera de nous protéger à la fois de ceux qui voudront venir s'abriter chez nous et du réchauffement en cours, quitte à laisser le reste du monde se transformer en enfer? Ou est-ce qu'on essaye de prolonger le monde merveilleux qu'on a réussi à construire ces dernières décennies, où de plus en plus de gens sortent de la pauvreté, mangent à leur faim, peuvent rêver d'un avenir meilleur pour leurs enfants, alors même que l'on sait que le modèle économique qui a permis de construire ce nouveau monde n'est pas tenable?
C'est presque une conclusion, Laurent Testo. On va rajouter une deuxième conclusion. Cette scène, une scène importante qui se passe le 23 juin 1988, lorsque le climatologue James Hansen se produit devant une commission du Sénat des États-Unis par une chaleur record de 37 degrés dans une salle dont le système de climatisation est en panne. Et il déclare à des parlementaires en sueur qu'il est certain à 99% que le climat se réchauffe et de ce que les activités humaines en sont responsables. C'était une scène le 23 juin 1988. Le GIEC a été créé en novembre 1988, et puis l'année 1989 a vu la fin du communisme d'État, la prise de conscience environnementale mondiale qui s'amorçait aurait pu mener à un futur différent, écrivez-vous. Or, c'est un modèle alternatif qui a triomphé. Le néolibéralisme a permis l'extension du schéma consumériste occidental à la planète entière, au moment même où l'on se rendrait compte que ce comportement n'était pas soutenable. Singe est devenu schizophrène, il voudrait sauver le climat, il faudrait sauver la planète, sa planète et signe pour se faire des accords internationaux sur le climat, dans lequel les engagements des États sont optionnels et n'entraînent pas de pénalité en cas de non-respect. Ce n'est pas le cas des accords commerciaux tels que ceux de l'OMC, qui sont assortis de lourdes sanctions en cas de manquement aux règles. Voilà, on peut imaginer cette scène qui a eu lieu du 23 juin 1988 et des décisions ou des non-décisions qui ont été prises à sa suite.
J'aurais pu retenir d'autres scènes puisqu'on sait qu'il y a eu d'autres avertissements dans le passé. Je pense notamment au livre de Rachel Carson, Printemps silencieux, 1962, qui a provoqué une prise de conscience planétaire et abouti à l'interdiction progressive du DDT, de l'usage du DDT, qui était un des insecticides les plus puissants. Simplement, dans le cas de Rachel Carson, c'est parfaitement visible. Dans le cas de James Hansen, ça l'est un peu moins. L'industrie a vu ses intérêts menacés et a réagi par des campagnes de lobbying extrêmement intenses qui lui ont permis en fait de repousser cette échéance. On aurait pu changer le monde effectivement il y a 30 ou 40 ans si ces prises de conscience-là avaient été traduites en actes par les États, si les citoyens s'étaient mobilisés pour exiger qu'on change le modèle agricole, on change le modèle industriel, on réchauffe moins la planète. Voilà. On avait les éléments pour ce faire, mais les industriels ont financé des contre-recherche, on noyait le poisson littéralement. On connaît aujourd'hui les méthodes. Il y a 2-3 jours dans Le Monde paraissait un papier sur les Monsanto Papers qui montre très clairement que par rapport aux insecticides, par rapport à une certaine catégorie d'insecticides, Monsanto a payé des boîtes de com pour rédiger des articles scientifiques et puis ensuite elle a payé les scientifiques avec des marchandages sordides pour que ceux-ci endossent par leur signature prestigieuse dans des revues scientifiques relues par les pairs. Les conclusions de ces articles conçus par les services de Monsanto. On voit bien, et on sait aussi que la plupart des gens qui ont trempé dans ce système ont trempé également dans la désinformation sur le tabac, sur le pétrole, puisque les grands clients n'ont pas été que Monsanto, mais Exxon, Reynolds, Marlboro, Janssen, etc. On est dans un système où les grandes décisions sont en fait laissées aux mains des instances économiques qui sont à la fois jugées parties. On le voit bien dans la définition aujourd'hui, dans l'enjeu de la définition des perturbateurs endocriniens à l'échelle de l'Europe. Il s'agit ni plus ni moins de définir ce qu'est un perturbateur endocrinien. Pour les biologistes, c'est assez clair. Un perturbateur endocrinien, c'est une substance qui agit même à très faible dose, qui prend en... c'est une sorte de terroriste qui s'introduit dans un système vivant et change son code de programmation. C'est-à-dire qu'un perturbateur endocrinien qui adore les systèmes vivants en cours de formation, essentiellement donc les fœtus et les enfants en période de croissance, s'introduit dans l'enfant et décide la forme de son crâne, le volume de son cerveau, la densité de ses connexions neuronales, ses capacités à être de bonne ou de mauvaise humeur, sa capacité à se reproduire. En général, les perturbateurs endocriniens ont tendance à féminiser les petits garçons, à accélérer la puberté des petites filles. Bref, c'est d'affreux pirates qui prennent en otage tout le système biologique, mais pas seulement des petits garçons et des petites filles, mais aussi des poissons, des insectes, bref, de tout le vivant. Nous avons changé les règles fondamentales du vivant avec ces substances-là. Et c'est ça qu'il s'agit de réglementer aujourd'hui en Europe. Et les industriels dictent encore des textes à un certain nombre d'instances européennes pour essayer d'exclure, par exemple, les produits agricoles de la définition des perturbateurs endocriniens. On en est là. Or, c'est un des principaux vecteurs de ces perturbateurs endocriniens. Il y a donc une urgence pour les citoyens à se mobiliser par rapport à un certain nombre de couleuvres que l'on tente de nous faire avaler encore aujourd'hui au nom, soi-disant, de notre confort, parce que peut-être que l'agriculture sera beaucoup plus compliquée à faire sans ces substances-là, mais est-ce qu'un monde qui sera peuplé de gens qui se féminiseront au fur et à mesure, qui ne pourront plus trouver de poissons dans les rivières parce que ceux-ci auront disparu, plus d'insectes, etc., sera préférable? La réponse est probablement non, et nous nous acheminons progressivement vers ce futur en refusant de le regarder. La plupart des substances que nous diffusons sans contrôle sont lourdes de potentialités destructives. Et c'est ça aussi qu'il faut penser, c'est que l'histoire s'accélère et que nous inventons de plus en plus de substances qui ont des capacités à impacter le vivant. Et autre chose qui est également lourde conséquence, le développement des biotechnologies accompagné du développement des technologies de traitement de l'information par l'informatique, le big data, va bientôt permettre de reprogrammer le vivant, mais à l'échelle, à une échelle que l'on n'imagine pas. Il y en a déjà qui rêvent, par exemple, d'enlever un certain gène des pommes. Vous savez, quand vous laissez tomber une pomme, elle va s'écraser au sol, elle va t'aller. C'est pas un très bel aspect, ça n'a pas très bon goût, mais on peut envisager d'enlever le gène qui permet aux pommes de t'aller. Et il y a des équipes de biologistes qui envisagent sérieusement de faire ce qu'on appelle du forçage génétique, c'est-à-dire d'agir sur ce gène, de le changer, de l'injecter dans les pommes, de façon à ce qu'il se diffuse planétairement, et on aura bientôt des pommes qui ne servent plus à t'aller. Et après, on pourra envisager d'enlever un certain nombre d'autres choses, de reprogrammer un certain nombre d'autres éléments du vivant. C'est tout à fait possible. C'est pourquoi il importe aujourd'hui de prendre conscience de notre capacité croissante à impacter le vivant et des conséquences philosophiques qu'elles peuvent avoir, parce que nous ne commençons qu'à ébaucher une réflexion là-dessus sur la conjonction possible des progrès phénoménaux que sont en train d'accomplir notamment les différentes formes de biologie et d'informatique en conjonction. Elles sont en train littéralement de changer notre monde, et c'est presque dans l'indifférence générale parce qu'on n'en perçoit pas vraiment les enjeux, mais ils peuvent être cataclysmiques, pour reprendre le titre de mon livre.
Merci beaucoup, Laurent Testot.